Bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, collègues qui nous ont rejoints en ligne. Merci beaucoup de prendre le temps dans votre journée de rejoindre notre webinaire sur comment compléter la lettre d'intérêt spécifiquement pour une évaluation des obstacles. Et on note que DECAF et Cornell, l'Université Cornell, secteur de laboratoire de secteur de la sécurité du genre, MOIP, mesurer les opportunités pour les femmes dans le cadre des opérations de paix, méthodologie et la méthodologie préférée pour le fonds d'initiative ELSI pour soutenir cela. Le webinaire d'aujourd'hui comprendra des explications détaillées sur la manière de remplir le formulaire de lettre d'intérêt du fonds d'initiative ELSI pour le MOVIP. Pour le moment, ou s'il y a un autre obstacle ou une autre méthodologie d'évaluation que vous utilisez, on a quand même besoin d'une lettre d'intérêt qui inclut l'ensemble des informations qui seront présentées aujourd'hui. Il y a également l'opportunité de questions et de réponses. À la fin de chaque section, nous vous encourageons soit de taper vos questions dans la section questions et réponses ou de lever votre main. Il y aura également l'opportunité à la fin de la séance pour poser des questions et également l'équipe sera disponible pour répondre à ces questions. Donc maintenant, je vous donne un petit peu de consignes. L'interprétation en direct est disponible. Veuillez s'il vous plaît cliquer sur l'icône du globe en bas de votre fenêtre Zoom et sélectionner la langue de votre choix, la langue préférée. S'il vous plaît, veuillez noter que vous ne pouvez accéder à l'interprétation que si vous vous connectez à l'audio via votre ordinateur et pas par votre téléphone. Et également, nous vous rappelons, nous vous demandons de parler lentement et clairement pour aider les interprètes. Donc ça, c'est pour nos conférenciers. Et également, l'exposé technique est enregistré en quatre langues et sera téléchargé sur le site web du Fonds d'initiative ESTI, quatrième cycle de programmation exposé lettre d'intérêt MOVIP, tout de suite après cette séance. Et les diapositives de présentation seront également disponibles sur le site du Fonds d'initiative ELSI. Mais notez qu'on n'a qu'une diapositive de présentation aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser le modèle de la lettre d'intérêt comme notre outil. Et ça, c'est déjà sur le site Internet en anglais et en français. Et également, pour les questions, veuillez utiliser la boîte de questions et réponses pour taper vos questions à tout moment. Et voilà, maintenant, je vais inviter Martha, qui est un des membres de notre équipe au sein du secrétariat du Fonds d'initiative ELTI, pour commencer la préparation. Je vous remercie beaucoup. Martha, je vous donne maintenant la parole. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous, bon après-midi, bon matin, bon après-midi, bonne soirée. Cela dépend évidemment de votre fuseau horaire. Et je vais vous expliquer la lettre d'intérêt, le modèle de la lettre d'intérêt. Et aujourd'hui, on va surtout mettre l'accent sur le MOIP, c'est méthodologie d'évaluation des opportunités pour les femmes dans les opérations de paix. Et c'est une application d'évaluation des obstacles. Donc, partie 1, comme vous notez. Ce modèle et c'est la norme pour les trois modalités de financement. On a également le FPF et aujourd'hui on va parler de l'évaluation des obstacles et jeudi on parlera du financement des projets flexibles et également le GSU, unité forte urgente. Donc déjà on parle des bénéficiaires de fonds et normalement les bénéficiaires de fonds soit des pays contributeurs en soldats en troupes, C'est surtout un gouvernement national ou des institutions de sécurité. Ça veut dire les militaires, la police ou la gendarmerie, ça dépend de la situation dans le pays et également. Les autres bénéficiaires du fonds sont des partenaires de mise en œuvre des Nations Unies. Donc, on regarde Organisation des Nations Unies participantes, Agence de fonds et programmes des Nations Unies et Opération de maintien de la paix de l'ONU. Donc, ce soit les deux récipiendaires principaux des fonds. Et quand on regarde le partenaire de mise en œuvre, ici, on regarde des organisations qui vont effectuer les activités des projets. Donc vraiment, ce sont surtout les pays contributeurs en soldats et en policiers qui vont effectuer le travail. Ou quelquefois, quand on a un partenaire de mise en œuvre, lorsque l'on fait une évaluation des obstacles ou que vous engagez un partenaire de recherche qui peut être une institution indépendante ou une organisation de la société civile qui peut être un partenaire de mise en œuvre. Donc, on a besoin de l'ensemble des détails, des coordonnées qui se doivent être rempli ici, et maintenant vous descendez. Et une chose que vous devez noter, on a besoin du plus haut niveau de cette institution qui doit signer pour signer. Par exemple, c'est un TP, c'est un pays contributeur en soldats et soldiers. Si c'est une soumission militaire, on a besoin du ministère de la Défense, le chef de la Défense. Si c'est la police, on a besoin du plus haut niveau. Ça dépend évidemment du pays. Par exemple, le ministère de l'Intérieur ou un commissionnaire de police, un commissaire de police ou un inspecteur général. Si c'est une agence des Nations Unies, on a besoin par exemple du représentant du pays. Mais ça doit être la plus haute autorité de cette agence des Nations Unies dans un pays. Par exemple, ça peut être un chef de mission ou un chef de pays des Nations Unies. Et maintenant, si on descend sur le modèle, barre de défilement. Ah ben, je vais continuer. Je voudrais qu'on défile vers le bas. Maintenant, les partenaires de mise en œuvre. Ils ont donc indiqué qu'on a une organisation de la société civile ou pays contributeurs en soldats et policiers. Et de nouveau, on a besoin des plus hauts niveaux de ces institutions pour effectuer cette lettre d'intérêt. On ne peut pas accepter des soumissions qui n'ont pas été signées au plus haut niveau en ce qui concerne les coordonnées des candidats et des candidatures. Veuillez, s'il vous plaît, défiler vers le bas. Je vais continuer maintenant aux modalités de financement. Donc, les dernières modalités de financement, donc l'évaluation des obstacles. Merci. Donc, j'ai déjà couvert. Les partenaires de mise en œuvre et les bénéficiaires de fonds. Pour ce qui est des modalités de financement, on a l'évaluation des obstacles. Donc là, vous devez indiquer si vous portez votre candidature pour une évaluation des obstacles. Et généralement, c'est recommandé très, très, très fortement en tant que point de départ. Et de nouveau, vous devez indiquer le budget. Ce que l'on a vu, c'est que on a des situations où, par exemple, les pays ont effectué leur propre évaluation des obstacles, mais vous devez avoir des preuves crédibles de l'évaluation des obstacles. Mais si un pays n'a pas effectué d'évaluation des obstacles, on vous recommande très très fortement d'utiliser le DECAF, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur et de la sécurité. Aux deux précédentes séances qu'on a eues, on a eu un exposé technique sur l'exposé. Et nous avons eu le DECAF et nous avons eu également genre et secteur de sécurité. Et donc, parce que la méthodologie MOVIP, ça a utilisé cette méthodologie particulière. Et de nouveau, lors de nos premiers, second et troisième tours de programmation, on a eu entre 180 et 250 millions de dollars américains, mais ça dépend du contexte, les coûts dépendent également de la taille du pays, des localisations géographiques, et ça va. Et l'échantillon de l'évaluation des obstacles, évidemment, l'institution de sécurité, si c'est militaire, si c'est la police, et si la gendarmerie, et si un partenaire de recherche est impliqué. Également, l'autre chose qui détermine les coûts, de nouveau, c'est le modèle de partenariat que vous pourrez employer. Donc, on a les trois modèles de partenariat lorsque l'on parle de l'évaluation des obstacles. Donc, ici, je vais de nouveau en parler plus tard. Et l'autre chose, ce que je dois mentionner ici, vous ne pouvez pas faire la demande pour l'évaluation des obstacles et le financement des objets flexibles en même temps. Et l'évaluation des obstacles, c'est la première étape. Et uniquement quand vous avez effectué l'évaluation des obstacles, vous pouvez faire la demande pour le financement des projets flexibles. Et quand vous avez effectué l'évaluation des obstacles, vous avez un rapport et les recommandations. Et ensuite, les obstacles de haute priorité, le top 3, maximum 5, c'est ceux que vous allez utiliser pour déterminer les activités sur lesquelles vous allez mettre l'accent sur le financement des projets flexibles. Donc ça, c'est un avertissement. La seule chose, c'est quand vous faites votre candidature pour l'évaluation des obstacles, c'est que vous pourriez de nouveau demander le GSU, Unité Forte de Genre. Et ce que l'on regarde, c'est si le pays contributeur en soldats et policiers sont déployés, c'est-à-dire si les militaires, les troupes, les missions de maintien de la paix des Nations Unies sont déployées ou si vous avez une unité de police formée qui a été déployée. Et ça, pour faire la demande, on a un calculateur. Vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter pour déterminer le montant du budget. On a un calculateur. Vous nous donnez le nombre que vous avez d'unités de police ou de troupes ou la taille du contingent et le calculateur vous donnera le budget. Pour ce qui est de la durée du projet, ici, on a indiqué un maximum de 2 ans. Ces 2 ans, c'est surtout pour le financement de projets flexibles, FPF. C'est ce qui se passe après 2 ans. Quand on parle d'évaluation des obstacles, ce que l'on a vu, c'est que ça prend la plupart du temps 12 mois. Et pour ce qui est du premium GSU, unité forte de genre, c'est d'habitude pour 3 ans parce qu'il y a des rotations qui doivent être effectuées, un pays qui est déployé, l'équipe doit retourner à la maison et des premiums sont payés quand on retourne dans le pays pendant 3 années consécutives. Et une des exigences dont on a besoin pour la diligence raisonnable, c'est qu'on doit s'assurer que si les ressources sont transférées à une institution, par exemple TPCC, pays contributeur aux soldats et policiers, ou un partenaire de mise en œuvre ou un partenaire de recherche, on doit faire une approche harmonisée de transfert monétaire. Ça s'applique uniquement si les fonds vont directement à un TPCC, pays contributeur en soldats et en policiers. Par exemple, si une institution n'est pas en partenariat avec une agence des Nations Unies, le fonds d'initiative LCEIF va engager des consultants pour effectuer le acte, l'approche harmonisée de transfert monétaire. Mais si vous avez une agence des Nations Unies qui est en partenariat avec un destinataire de fonds, dans ce cas-là, l'agence des Nations Unies dans le pays va faire le acte, l'approche harmonisée de transfert monétaire. Et les autres exigences, on regarde également la politique de diligence raisonnable et également on regarde les aspects de droits de l'homme. C'est une politique des Nations Unies. Quand les Nations Unies soutiennent des entités qui n'appartiennent pas aux Nations Unies, d'habitude on regarde évidemment les aspects du droit de l'homme, s'assurer une adhérence aux lois humanitaires internationales et également aux lois des droits de l'homme internationales. Et de nouveau, ça se fait directement par l'EIF, Fonds d'initiative ELSI. Donc, que ce soit TPCC, pays contributeur en soldats et policiers, ou une entité des Nations Unies, les ressources ont une implication où elles sont dispersées vers un TPCC ou une institution de sécurité. Et le projet proposé, par exemple, en cas de financement de projets flexibles, le financement va aider les opérations de TPCC. ou de politique de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, HRDDP. Ce sera fait, ça effectué par le fonds d'initiative ELSI. Donc, vous vraiment être au courant de ça en termes de conformité. Et également pour ce qui est des signatures autorisées, on a déjà indiqué, on a besoin du rang le plus élevé des institutions, que ce soit des TPCC, pays contributeurs en soldats et policiers, ou que ce soit une agence des Nations Unies, on a besoin que ce soit prouvé au plus haut niveau. Que ce, voilà. Également pour les soumissions, des dernières soumissions également. Maintenant, on va passer au résumé du projet. Pour ce qui est du résumé du projet, ici, on regarde. On veut une description très précise et courte de l'intitulé du projet. Donc, on veut que quelque chose soit clair, que ça décrit, que ce soit qu'il y ait une description, y compris par exemple le pays, le nom de l'institution de sécurité. Je donne des exemples. Par exemple, on a une soumission de la Jordanie. Et le titre était très simple, c'était Direction de la sécurité publique de Jordanie, centre de qualification des femmes policières. C'est très précis. C'est-à-dire, quand vous lisez le titre, vous savez déjà ce qu'ils font. Et également, on avait un autre. Pour une évaluation des obstacles, on avait les forces armées du Liberia qui a réalisé une évaluation des obstacles en collaboration avec ONU Femmes et l'Institut Kofi Annan qui était le partenaire de recherche et c'était l'Institut pour la transformation des conflits. Donc de nouveau, on regarde la situation et on s'assure que les mots principaux, les mots sont là, que c'est clair, que c'est court, et on a les détails du pays et de l'institution de sécurité, que ce soit les militaires, la police, la gendarmerie. De nouveau, c'est un résumé du projet. Donc, de nouveau, on anticipe d'avoir un petit résumé du projet. Quelles sont les choses clés que l'on recherche? Quels sont les objectifs principaux du projet? Et qu'est-ce que vous voulez réaliser? Donc, si c'est une évaluation des obstacles, vous allez parler de l'évaluation des obstacles que vous avez planifiés, de la méthodologie et tout cela. L'autre chose que l'on regarde également, c'est le partenariat. Et le partenariat. Les partenariats sont vraiment critiques. On sait que la nature de ces projets, on a besoin de voir une combinaison. Par exemple, un exemple, un TPCC qui travaille avec une agence des Nations Unies dans le pays ou qui travaille avec une institution de recherche indépendante, ça pourrait être également une organisation de la société civile ou une combinaison, un ensemble de ministères, d'institutions de sécurité, d'organisations des Nations Unies. Les partenariats sont très très importants. Et si vous portez candidature pour une évaluation des obstacles, ça a été couvert lors du dernier webinaire par DECAF, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Et lorsque vous faites une demande également de MOVIP, vous devez faire cela si vous portez une candidature pour une aide d'évaluation des obstacles. Et si vous n'avez pas fait ça et que vous avez l'intention de faire, voilà les étapes à suivre. Et ça vous guidera vraiment pour les évaluations des obstacles. Est-ce que je continue?
Très bien, donc je vais maintenant regarder la troisième partie. Donc, ici, vous avez des questions par rapport au fait d'avoir déjà organisé une évaluation des obstacles. Donc, si vous n'avez jamais fait une telle évaluation, vous dites non. Donc, si un pays a déjà organisé une évaluation des obstacles, vous pouvez bien l'indiquer. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites oui. Ou si un pays va donc faire une candidature, mais a déjà reçu des financements lors d'un tour précédent hein, du fonds. Donc, vous pouvez indiquer les détails des évaluations passées, quels sont les éléments que vous avez couverts. Quels sont les détails clés? Donc, voilà les résultats clés de cette évaluation. Donc, les priorités, les obstacles que vous avez identifiés pour votre pays en utilisant la liste de la méthodologie DECAF. Nous avons 10 obstacles, donc des contraintes par rapport au ménage, des rôles de genre, l'exclusion sociale des femmes, etc. Donc, l'idée est de nous présenter une synthèse de ces détails. Et puis de joindre une copie du rapport. Ce que nous avons fait, comme nous avons déjà expliqué, c'est que vous avez eu un soutien et nous avons indiqué que normalement, nous allons pouvoir publier les informations associées sur notre site web. Donc, nous avons des exemples sur notre site web. Vous pouvez bien les consulter. Alors, allons un peu plus vers le bas maintenant. Voilà, je pense que j'ai déjà souligné quelques éléments clés ici. Si on peut monter un tout petit peu, merci. Alors, ici, lorsque nous parlons de synthèse exécutive, le résumé, nous voulons être vraiment spécifiques. Donc, en ce qui concerne cette liste de 10 obstacles possibles, nous voulons savoir quelles sont les premières 3 questions prioritaires que vous avez identifiées. Donc, vous listez les questions les plus urgentes, hein, donc les obstacles clés identifiés et les actions prioritaires recommandées. Donc voilà, les choses les plus urgentes sur lesquelles vous voulez vraiment travailler. Et cela est très important, hein, lorsqu'il s'agit de poser votre candidature pour un financement flexible, parce que nous regardons les questions prioritaires et les obstacles clés identifiés, associés avec des recommandations pour déterminer le type de projet présenté. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Si nous pouvons juste aller vers le bas encore, super, avant de passer à la partie 4, je voulais mentionner donc les modèles de partenariat. Nous avons déjà indiqué le fait que le pays doit nous informer, doit cocher la case pour nous dire, donc juste pour monter un tout petit peu, s'il vous plaît, pour montrer l'endroit en question. Ici, nous avons indiqué que vous devez dire si c'est le partenariat, le modèle de partenariat A, B ou C. Nous avons expliqué donc les différents types de modèles, donc avec le modèle E. Ah, nous avons le soutien de l'université pour l'analyse des données, l'université de Cornell pour l'analyse des données, hein, et c'est le partenaire national qui va collecter les données. Donc, c'est pour le modèle A. Donc, ici, vous pouvez bien indiquer votre sélection. L'université de Cornell a un processus bien établi pour établir les différents points en ce qui concerne les méthodologies associées. Nous avons également le modèle B avec un soutien du laboratoire de Cornell qui travaille en partenariat avec une institution nationale de recherche, donc pour faire l'analyse des données et pour également rédiger les rapports. Donc, B, c'est un mélange, hein, un modèle avec un soutien de la part de notre laboratoire, mais également avec une institution de recherche nationale. Pour le modèle C, c'est l'institution nationale qui va vraiment être responsable du processus d'analyse des données et pour rédiger également les rapports. Sans soutien de notre laboratoire, mais quand même avec l'opportunité en ce qui concerne donc le soutien de notre helpdesk DECAF. Donc, vous pouvez poser vos questions et avoir un certain niveau de soutien, par exemple pour votre formation. Mais il n'y a pas de soutien de la part de notre laboratoire. Donc voilà, vous devez bien sélectionner votre modèle, hein, parce qu'il y a des impacts sur le processus de planification, hein. Vous devez donc avoir plus de liens avec l'université de Cornell si vous sélectionnez les premiers deux modèles, hein. Donc, il va peut-être avoir un accord pour l'utilisation des données, etc. Pour le modèle C, c'est au pays hein, qui va vraiment organiser tout le processus avec l'Institution nationale de recherche. Très bien, je pense que j'ai bien couvert ces parties 1, 2 et 3. Donc, je peux peut-être ouvrir la parole aux questions. S'il y a des questions, je vais juste vérifier. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, dites-nous. Je peux passer la parole à Gamon. Aux collègues pour la prochaine section. Pas de questions? Non? Donc, voilà, nous pouvons toujours avoir vos questions vers la fin, mais je vais passer la parole à Mavon, donc, pour la partie 4 de notre présentation. Il va y avoir une partie questions et réponses à la fin de la session également. Merci, Martha. Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Je vais maintenant vous expliquer la partie 4, donc les détails du projet. Cette section se focalise sur les questions de savoir quoi, pourquoi et comment. Ah, donc ici, vous allez avoir l'opportunité de bien expliquer vos motivations hein, pour votre candidature, les activités proposées et comment ces activités vont créer des changements dans vos institutions de sécurité. Donc, nous allons regarder les rationales du projet, la stratégie de mise en œuvre. Dans cette section, nous allons donc vous demander de nous dire pourquoi est-ce que vous cherchez notre soutien, quels sont les écarts, les défis que vous examinez et comment est-ce que ces éléments répondent bien à nos critères. Donc ici, vous allez décrire toutes vos initiatives continues dans vos institutions de sécurité pour promouvoir la participation des femmes et également voir comment ces initiatives sont en train de booster la participation des femmes. Donc, juste pour vous donner l'exemple, vous avez peut-être développé une politique genre avec un plan d'action. Vous avez peut-être soutenu d'autres projets avec d'autres partenaires qui visent à booster cette participation des femmes hein, dans le maintien de la paix. Donc, vous allez inclure ces éléments dans cette partie détail du projet. Cela nous aide à bien comprendre comment votre projet proposé va bien renforcer les efforts existant hein, de votre institution de sécurité. Dans cette section, vous allez également nous expliquer comment vous allez mettre en œuvre le projet, quelles sont les structures de gestion que vous allez mettre en place, est-ce que vous allez avoir un comité de pilotage de projet, des groupes de travail technique, une unité de gestion de projet spécifique et quels vont être leurs rôles et responsabilités. Hein, donc, en ce qui concerne ces différentes structures. Et finalement, nous vous encourageons également à inclure des informations sur les risques potentiels hein, liés à la mise en œuvre du projet et comment vous allez les atténuer. Donc, voilà l'aspect très important de cette section. Le prochain élément concerne le financement flexible de projet. Comme Martha a déjà mentionné, il va y avoir une session le 23 octobre, donc jeudi, pour examiner cette question hein, du financement flexible. Donc, nous allons vous donner plus de détails pendant cette session spécifique. En ce qui concerne l'évaluation des obstacles, Martha a déjà expliqué les détails de cette évaluation, mais juste pour vous rappeler que si vous postulez pour une évaluation des obstacles, vous devez indiquer, s'il vous plaît, les actions et les engagements que l'institution de sécurité de votre pays va prendre pour donner suite aux recommandations. Donc voilà, l'idée est de vraiment savoir comment les recommandations vont donc façonner vos actions futures pour faire face aux obstacles. Nous avons déjà observé comment le soutien du leadership est un facteur clé hein, pour le succès d'une telle évaluation. Donc, il est très important de bien souligner comment vos leaders vont s'engager hein, pour vraiment donner suite aux recommandations. Maintenant, nous allons examiner cette partie, mais bah, en effet, cette partie va être expliquée lors de notre webinaire de jeudi. Donc, nous allons vous présenter plus d'informations jeudi par rapport à cette partie. En ce qui concerne l'innovation maintenant, il s'agit d'une partie importante de votre candidature parce que nous vous encourageons de vraiment proposer des projets innovants. Hein, donc, quelque chose qui représente une démarche nouveau pour votre institution, pour votre pays. Un projet pilote, par exemple, que vous allez organisé pour tester de nouvelles idées. Donc, ce n'est pas business as usual, hein. L'idée est de vraiment penser de manière novatrice pour créer des solutions alternatives. Donc, ici, vous allez nous décrire les choses qui différencient vraiment votre projet. Hein, comment est-ce que ça va changer la donne? Quelles sont les stratégies créatives que vous allez examiner pour améliorer la participation des femmes? En ce qui concerne maintenant la durabilité, la pérennité, nous avons donc un focus sur cette idée des projets durables. L'idée est que ces projets vont continuer au-delà d'une période de financement spécifique, hein, du fonds. L'idée est que vous allez nous expliquer ici comment vous allez pouvoir continuer ces activités au cours du temps. Hein? Donc, pour vraiment souligner la pérennité de vos activités, quelles sont les actions durables que vous allez mener pour garantir que ces résultats vont durer? Voilà, cela est un aspect essentiel de votre lettre d'intérêt. Juste pour vous rappeler que nous allons également, en tant que fonds, réviser votre lettre avec certains critères clés, hein, donc pour prioriser les différentes candidatures. Donc, voilà juste quelques points sur ces critères. Nous allons donc regarder l'impact et la pertinence stratégique, hein, de votre proposition. Hein, les projets qui vont contribuer à de multiples résultats de notre fonds, qui vont inclure également des objectifs réalistes, susceptibles d'entraîner le déploiement d'un volume important de femmes en uniforme, y compris dans des rôles de direction. Nous allons examiner également les facteurs liés à l'engagement et l'inclusion, donc comment est-ce que les femmes vont jouer un rôle essentiel tout au long du cycle du projet, donc de la planification jusqu'au point d'évaluer le projet final avec les résultats finaux. Et durabilité. Voilà, cette question de durabilité est un point important ici également. Donc, comment est-ce que votre projet va contribuer au déploiement durable des femmes en uniforme au-delà de la durée de vie du projet? L'innovation figure ici également, donc nous voulons vraiment vérifier que les ressources du fonds vont être utilisées de manière responsable. Nous regardons également donc la rentabilité et la gestion de projets solides. Donc, comment garantir que vous avez un plan de gestion clair, avec des rôles bien définis pour les différents acteurs et une coordination efficace. Voilà, donc, je vais m'arrêter là et je vais vous demander si vous avez des questions par rapport à cette partie numéro 4. Hein, donc, en ce qui concerne ces différentes informations, avant de passer à la partie 5. Pas de questions? Je ne vois pas de questions dans le chat. Pas de main levée. Donc, je vais passer la parole à Agdad qui va maintenant nous expliquer la partie 5, résultats et budget du projet. Merci, Marvel. Donc, cette partie, des fois, est une partie difficile à remplir, hein, pour nos candidats. Donc, je vais vraiment essayer de vous l'expliquer de manière simple, parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, normalement, MOIP va contribuer au résultat numéro 1, donc pour augmenter les connaissances de chaque pays par rapport au déploiement des femmes en uniforme. Vous allez donc remplir cette première partie donc avec le résultat, donc une évaluation des obstacles, donc un partenariat avec une institution de recherche, par exemple. L'activité est donc l'organisation hein, d'une telle évaluation. Et pour la description, vous pouvez donc préciser que vous allez essayer de comprendre les obstacles spécifiques en utilisant la méthodologie MOIP. Si vous savez bien quelle est l'institution de recherche qui va être impliquée, vous pouvez le mentionner ici, mais sinon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous pouvez ajouter une description ici. Puis, en ce qui concerne le budget estimé, comme nous avons dit avant, normalement, c'est entre 110 000 et 250 000 dollars américains, mais c'est basé sur les coûts d'effet dans votre pays, le modèle de partenariat sélectionné. Donc, vous allez mettre votre budget estimé ici. Si vous focalisez sur un MOEP, seulement vous allez seulement remplir cette partie du tableau. Mais ici, vers le bas, nous avons également d'autres résultats spécifiques. Donc, pour le déploiement, par exemple, vous avez des colonnes qui s'appliquent à notre partie. Spécifique au genre, Gender Strong Unit. Nous allons vous donner plus d'informations jeudi par rapport à cette partie. Mais si ce n'est qu'une évaluation d'obstacles, vous ne devez remplir que cette première partie. Et également pour le résultat 3, donc pour augmenter le volume de femmes en uniforme éligibles hein, pour des missions de l'ONU, hein, de maintien de la paix. Voilà. Vous ne remplissez rien pour les résultats 3 et 4 si vous ne postulez que pour une évaluation des obstacles. Voilà. Donc, l'évaluation est la première étape. Donc, pour cette partie 4, c'est seulement, oh, c'est plutôt pour les personnes qui ont déjà fait une évaluation des obstacles. Donc, voilà, pour la plupart des participants, ça va être cet premier résultat, donc cette première ligne hein, pour le résultat 1. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez également accéder à notre cadre sur le site web qui va vous expliquer un peu plus par rapport aux autres lignes. Je suis tout à fait prête également à répondre à vos questions. Mais voilà, l'idée ici pour vous est surtout de remplir cette première ligne pour l'évaluation des obstacles. En ce qui concerne le budget, vous ne devez pas présenter un budget détaillé à cette étape, mais vous allez devoir vous nous présentez un budget plus détaillé plus tard dans le processus de candidature. Voilà, je suis tout à fait prête à répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, je peux repasser la parole à Marthe. Marvel, excusez-moi, Marvel.
Merci, Agathe. Ah, une main est levée. J'ai vu une main levée. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Dan, vous avez levé la main. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, tout à fait. Alors, je voulais demander, est-ce qu'il existe des méthodologies spécifiques qui sont spécifiées par rapport à l'évaluation des obstacles. Parce que dans le tableau financier ici, je vois ce qui est mentionné, c'est la méthodologie, l'évaluation Méthodique. Donc, est-ce qu'il y a des méthodologies qui sont recommandées?
Oui.
Oui, la méthodologie recommandée, c'est MOWIP, méthodologie d'évaluation des opportunités pour les femmes dans les opérations de paix. Et donc, on a deux webinaires la semaine dernière avec Cornel et DECAF, Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'être présent, mais on va partager les vidéos concernant ces webinaires également sur notre site web. Donc, si vous voulez d'autres informations. Donc, c'est vraiment la norme, la référence absolue, hein. Nous acceptons également d'autres évaluations qui utilisent une méthodologie crédible. Et par rapport aux termes de référence pour le financement, mais justement, mais vraiment, vraiment, c'est le MOWIP. Hein, le MOWIP, pour nous, c'est vraiment ce que l'on recommande parce qu'on pense que c'est vraiment complet et minutieux. Et vous voyez, c'est partagé sur l'écran. On partage également l'enregistrement des autres webinaires que l'on a fait sur la méthodologie MOWIP. Soyez en contact avec nous si vous avez des questions spécifiques à poser. Je vous remercie, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie 5 avant que l'on continue? OK. Je ne vois pas de main levée. Donc, si vous avez des questions, donc à ça, dans ce cas-là, vous mettez dans ce cas-là vos questions dans la boîte de dialogue si vous avez des questions à poser. Et donc, maintenant, je vais vous parler. De l'annexe A, ces données relatives au personnel de l'institution de sécurité. Donc, tous les demandeurs doivent remplir cette section dans son intégralité, c'est obligatoire. Remplir l'annexe A, c'est vraiment obligatoire, ainsi, et toutes les demandes de financement qui ont été soumises par les institutions de police ou militaires également, ces institutions sont en partenariat avec des agences des Nations Unies ou des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Notez que pour les agences des Nations Unies, pour les fonds et les programmes, cette annexe devrait être remplie uniquement si c'est... uniquement si par rapport au projet, si c'est pertinent par rapport au projet. Et vous vous demandez pourquoi on a cet index, pourquoi est-ce que l'on fait ça, pourquoi est-ce que c'est important. Et le but principal de cette annexe, c'est d'aider à établir une ligne de base de données distribuées dans le genre. Et ça nous permettra de mesurer le progrès dans ce projet. Et une fois que ce que veut l'EIF dans de la part des candidats, on veut d'abord que vous donniez un nombre ou un pourcentage des femmes dans votre institution de sécurité pour l'année. Donc, si pour des questions de sécurité, vous ne pouvez pas partager le nombre total de femmes, dans ce cas-là, le fonds d'initiative ELSI, on est d'accord avec ça. C'est tout à fait acceptable pour nous si vous donnez simplement un pourcentage. Si vous ne voulez pas donner les chiffres de personnel dans vos institutions de sécurité, dans ce cas-là, on est tout à fait satisfait d'obtenir uniquement le pourcentage. Et à la fin du projet, le fonds d'initiative ELSI va faire un suivi pour collecter les données mises à jour de cette feuille. Ça nous permettra d'évaluer et d'évaluer le progrès qui a été effectué, également de démontrer clairement votre projet et que votre projet a contribué à l'augmentation de la participation significative des femmes en uniforme au sein de votre organisation. Pour l'instant, je m'arrête pour demander si vous avez des questions à poser, mais comme vous voyez sur l'écran, il y a différents rangs qui sont demandés. Donc, il y a également des niveaux d'officiers. Également, il y en a d'autres, des officiers. Également, des officiers non commissionnés. Et également, ça inclut ce qui inclut, par exemple, dans la lettre d'intérêt, c'est le combat, le soutien au combat, les services de soutien également à la police, et si vous avez des officiers principaux et des officiers juniors, également, c'est considéré dans l'institution de sécurité. Mais il faut comprendre que le rang des officiers principaux, des cadres supérieurs et des officiers subalternes, Et également dans l'institution de sécurité, vous devez inclure cela dans la lettre d'intérêt. Je pose ici s'il y a des questions sur l'annexe A, pour remplir l'annexe A, pour remplir cette lettre d'intérêt, levez votre main ou tapez la question dans la boîte de conversation. Comme il n'y a pas de questions, je vais continuer avec l'annexe B. Et c'est la dernière annexe dans le modèle de lettre d'intérêt. Annexe B, c'est obligatoire de le compléter pour toutes les demandes de financement qui sont soumises par les institutions de police ou militaires. Mais par contre, pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou les agences des Nations Unies ou les fonds ou le programme, ce n'est pas obligatoire. Cette annexe. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on la remplit déjà? Cette annexe, en fait, elle fournit un aperçu de votre institution de votre personnel en uniforme déployé à l'heure actuelle ou que vous pensez déployer pour les Nations Unies dans les opérations de paix. Donc, ces informations que vous fournissez dans cette annexe, ça va aider le Fonds d'initiative ELSI à évaluer comment votre projet va contribuer à augmenter la participation des femmes et dans les opérations de paix ou de maintien de la paix. Et on vous demande, en fait, le Fonds d'initiative ELSI vous demande, en fait, d'inclure un nombre spécifique. Tout d'abord, on veut savoir le nombre et le pourcentage des femmes qui sont pour l'instant déployées dans les catégories suivantes. On veut connaître les observateurs militaires, les troupes et également les unités de police formées et également les personnels. Militaire également, on veut que vous remplissiez les détails. On veut les nombres, les pourcentages, le montant total. On veut également voir les cibles de déploiement pour les 3 prochaines années. On veut également que ce soit ventilé par année, par catégorie. Ce que vous voyez sur ce modèle, c'est 2025 à 2026, 2027, 2028, 2029. Où est-ce que vos cibles de déploiement, qu'est-ce que c'est pour les 3 prochaines années, vos cibles de déploiement? Et qu'est-ce que ces données ce que ces données nous permettent d'effectuer, c'est de voir où on en est aujourd'hui, comment votre institution a l'intention également d'augmenter la participation des femmes au cours du temps, et également comment garder à l'esprit que c'est très important pour le DPO et également pour le Bureau des affaires militaires et de la division de la police au sein du DPO. Ces entités sont responsables de la sélection du déploiement du personnel, des troupes et de la police qui contribuent dans les pays d'opération de maintien de la paix des Nations Unies. Donc, chaque candidature qui demande du financement de fonds d'initiative ELFI doit s'assurer que les projections de déploiement sont présentes. Dans l'annexe B, il faut être réaliste et ça doit être aligné avec les autorisations actuelles DPO, du département des opérations de paix des Nations Unies et également des processus de planification du DPO, département des opérations de paix des Nations Unies. Et également, si vos institutions de sécurité ont l'intention d'augmenter le déploiement dans ces catégories qui sont mentionnées ci-dessus, les observateurs militaires, le personnel militaire, les officiers, les troupes, les policiers, les officiers également, on vous recommande très 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 fortement de consulter directement avec vos points focaux DPO et avant de soumettre votre lettre d'intérêt. Maintenant, ça nous amène à la fin de l'annexe B et je vais donner la parole si vous avez des questions sur l'annexe B avant de donner la parole à ma collègue Martin.
Très bien, je ne vois pas de questions dans le chat et je ne vois pas de main levée. Donc, je pense que je peux repasser la parole à ma collègue Martha. Merci. Très bien, merci Marvel pour avoir expliqué cette partie. Donc là, nous avons fini le modèle. Je sais que nous. vous avons donné beaucoup d'informations, mais voilà, si jamais vous avez des questions, nous sommes tout à fait prêts à répondre. Des questions sur toutes les différentes parties de notre lettre d'intérêt. Nous avons également mis dans le chat des liens vers des différentes ressources en ce qui concerne ce tour de programmation. Donc, c'est également sur notre site web du fond. Nous avons également inclut quelques informations par rapport à notre cadre évaluation. Nous avons également des informations disponibles par rapport aux questions statistiques de genre. Donc, ces informations sont également sur le site web. Nous avons partagé le lien. Donc, vous allez pouvoir vérifier. C'est une des critères que nous évaluons lors de vos soumissions. Donc, si c'est un pays qui est un pays qui contribue des membres de personnel à nos opérations de maintien de la paix. Voilà, ces ressources sont disponibles sur notre site web et nous avons le modèle également que nous venons de présenter avec nos informations spécifiques pour expliquer le modèle, notre appel pour des lettres d'intérêt et également des questions fréquemment posées. Donc, vous pouvez utiliser ces informations pour vous guider tout au long de ce processus. En ce qui concerne les soumissions, nous attendons donc au moins une lettre d'intérêt pour une institution de sécurité, hein, donc pour votre pays. Si c'est pour la police, normalement, il va y avoir une lettre d'intérêt pour la police. Donc, juste pour clarifier. S'il s'agit d'un mélange d'institutions de sécurité différentes, vous pouvez combiner également ces différentes institutions dans une seule soumission. Donc, normalement, il va y avoir une lettre par institution de sécurité pour chaque pays. Il y a également une autre chose que nous voulions vous présenter et c'est le calendrier. Nous avons donc notre webinaire sur le projet, le financement du projet flexible. Ce jeudi. Voilà. Et nous vous encourageons également de participer à cette session sur l'évaluation des obstacles. Si vous avez déjà organiser une évaluation des obstacles et si vous considérez un financement flexible, vous pouvez également accéder à notre webinaire ici. Si vous êtes une agence onusienne, un fonds, un programme, une mission de maintien de la paix, nous avons une session dédiée pour vous le 28 octobre. Donc, nous sommes ici pour vous soutenir dans votre développement de ces lettres d'intérêt, pour vérifier que vous avez vraiment toutes les informations hein, dont vous avez besoin et également un calendrier clair. Mieux commencer tôt hein, pour ne pas avoir trop à faire vraiment à dernière minute. Gardez à l'esprit notre délai, donc le 31 janvier 2026. Commencez maintenant, hein, en gardant à l'esprit également le fait que décembre est normalement en saison de fête. Pour les missions onusiennes, nous avons également un délai plus tôt que nous allons vous indiquer lors de notre webinaire spécifique. C'est un peu plus tôt, pendant le mois de janvier, parce que nous devons passer par des révisions additionnelles. Donc voilà, nous sommes tout à fait prêts à répondre à vos questions. Si jamais il y a des choses qui ne restent pas claires pour vous, dites-nous. Nous vous encourageons à faire donc l'évaluation des obstacles utilisant notre méthodologie MOIP, c'est une recommandation très forte. Mais si vous avez déjà passé par ce processus, vous pouvez également partager avec nous votre rapport. Hein, si c'est un rapport basé sur les éléments probants, hein, c'est quelque chose de très important. Pour les agences et des missions onusiennes, vous ne devez pas faire cette évaluation des obstacles, mais nous attendons de votre part quelques évaluations, sondages, enquêtes basées sur des éléments probants, hein, pour avoir une base pour les projets. Mais pour les pays, normalement, nous avons cette attente, hein, pour avoir une évaluation d'obstacles en tant que point de départ. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vérifie dans le chat. Je vérifie les mains levées. Ah, pour les missions, donc, onusienne, notre délai pour les soumissions est le 10 janvier 2026 parce que nous devons passer par des étapes de vérification additionnelles. Voilà. Donc, je ne vois pas de questions, donc je vais passer la parole à Deb maintenant pour clore notre session d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Martha, Agathe et Marvel, pour cette présentation. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions par rapport aux lettres d'intérêt pour une évaluation des obstacles. Nous vous encourageons à partager les liens à l'enregistrement également avec des collègues dans vos capitaux nationaux pour les permettre également d'écouter des webinaires précédents. Donc, par exemple, notre webinaire de la semaine dernière qui examinait vraiment plus profondément l'évaluation des obstacles. Si vous avez des évaluations qui répondent déjà aux critères décrits dans nos termes de référence, vous pouvez également nous le présenter. Nous pouvons bien réviser cette méthodologie. Ici, il est important de vous dire que le développement de notre méthodologie MOIP a pris plusieurs mois avec beaucoup de recherches, avec des entretiens avec des femmes et des hommes des différentes institutions de sécurité, des institutions de recherche également, pour vraiment arriver à une méthodologie robuste basée sur la collecte des données et des informations des femmes et des hommes, et également la compréhension des 10 domaines clés avec un cadre pour la collecte, pour l'analyse de la collecte des données. Hein, donc, l'objectif est d'avoir un rapport qui souligne vraiment les obstacles clés, les domaines clés hein, pour cette institution de sécurité. Nous avons également organisé des projets pilotes avec d'autres pays, donc pas à travers du fonds ELSI, mais également avec un autre projet, et nous avons utilisé ces résultats comme base, donc pour créer notre méthodologie MOIP, qui est vraiment notre méthodologie de premier ordre. Hein, donc voilà, nous recommandons vraiment l'utilisation de cette méthodologie. Je ne vois pas de questions. Vous pouvez bien nous envoyer également des questions par écrit à travers de notre adresse mail. Donc voilà, j'aimerais remercier encore nos interprètes hein, qui facilitent vraiment notre communication pour rendre ces sessions accessibles hein, dans les différentes langues, espagnol, français, arabe. Également, j'aimerais remercier notre équipe pour le travail, pour la présentation d'aujourd'hui. Et chers participants, je vous remercie également hein, pour votre participation. Je sais que vous êtes très occupés, donc merci hein, pour vos questions également. Bonne continuation, hein, bonne journée ou bonne soirée et nous attendons avec impatience votre participation pendant nos sessions la semaine qui vient et également le jeudi. Hein, nous avons une session déjà jeudi, donc voilà, à la prochaine. Bonne continuation.